Et comme l'album de notre première invitée vient tout juste de sortir, pourquoi ne pas commencer cette matinée en beauté avec l'air qui donne son titre à l'album, Ombra Mai Fu, tiré de l'opéra Circé de Cavalli, Philippe Jarouski. Ombra Mai Fu, interprété par Philippe Jarouski. Et ça tombe bien, puisque Philippe Jarouski est précisément notre invité culture de ce matin. Il est avec nous, il est 7h10 sur France Culture. Récompensé à 3 reprises d'une victoire de la musique classique, célébré pour sa voix d'ange. Voilà 20 ans qu'il enchante en interprétant la grande époque des castrats, de Handel à Caldara, de Vivaldi à Monteverdi et nombre d'autres compositeurs essentiellement italiens, aujourd'hui oubliés. Il réitère aujourd'hui avec un nouveau disque consacré à une figure majeure de l'opéra vénitien au XVIIe siècle, Francesco Cavalli. Bonjour Philippe Jarouski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est un peu trompeur, hein, parce que ce qu'on vient d'entendre, Ombra Mai Fu, qui donne d'ailleurs son titre à votre disque, cet air de Francesco Cavalli, c'est un air d'opéra qu'on connaît beaucoup plus chanté par Handel, cet air d'opéra Circé. Oui. Il est bien plus connu par Handel, et d'ailleurs, vous l'avez chanté aussi par Handel.
Oh bah évidemment, c'est le tube des tubes, le fameux largo de Handel, c'est Ombra Mai Fu. Oui, l'accroche effectivement du titre de ce nouvel album, Ombra Mai Fu, by Cavalli, on dirait. Oui. C'est effectivement de créer une petite doute, est-ce le bon ? Et puis, justement, d'intéresser peut-être un auditeur qui ne connaît pas encore Cavalli pour lui raconter que finalement le premier Ombra Mai Fu de l'histoire a été composé par Cavalli et que peut-être même Handel connaissait cette version.
Alors, il y a aussi des auditeurs qui ne connaissent pas le Ombra Mai Fu d'Handel.
Peut-être pas le titre, mais je suis certain que pratiquement tout le monde a déjà entendu cet air une fois.
On va la remettre dans nos oreilles.
Avec plaisir.
Thank you.
alors les auditeurs qui connaissent auront reconnu, et puis ceux qui ne connaissaient pas auront peut-être envie de l'entendre un peu plus, cet Ombra mai fu de Handel. Quelle est la différence pour vous, Philippe Jarouski, entre ces deux Ombra mai fu, Cersei?
Alors la différence, c'est qu'il y a déjà pratiquement 100 ans entre les deux.
C'est quand même beaucoup. Hein,
oui, voilà, évidemment.
La musique a considérablement évolué entre-temps.
Exactement. Cavalita, compositeur de la première moitié du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant, évidemment, la première version de Cavalli est une version peut-être d'apparence plus simple, mais pareil, Handel veut aller dans l'essentiel, dans cette évocation de la nature, parce que c'est un air qui évoque la nature, c'est une déclaration d'amour du roi Cersei à un platane, à la base, à un arbre.
Jamais l'ombre d'aucun arbre ne fut ni plus cher, ni plus aimable, ni plus douce.
Exactement, on pourrait dire que c'est le premier air écolo.
Oui, c'est ça. Je disais en présentation que vous avez très longtemps, et depuis 20 ans, ça vous poursuit un peu, été célébré pour votre voix d'ange. Je suis un peu gênée, moi, de dire que vous avez une voix d'ange. Je me demande si on le dit encore aujourd'hui, ou si ça relève encore du préjugé des contre-ténors, Philippe Jarouski.
Alors évidemment, là, en entendant peut-être les deux versions d'Ombra mai fu, ça corrobore plutôt cette théorie, parce que là, on est dans quelque chose, effectivement, de plutôt éthéré, de plutôt angélique. Ça m'a longtemps énervé, parce qu'évidemment, quand on doit interpréter tous les aspects de la musique baroque, c'est-à-dire aussi le drame, l'excentricité, voilà, il faut trouver d'autres couleurs dans sa voix que le côté angélique, évidemment. Dans l'opéra baroque, on dépeint toutes les émotions humaines, la jalousie, le désir, donc énormément de choses. Donc j'ai beaucoup travaillé ma voix aussi dans cette direction-là, c'est-à-dire que je l'ai essayé de plus en plus de la reconnecter à la terre, on va dire, tout en gardant évidemment peut-être cette lumière et cette couleur particulière à ma voix.
Comment on fait pour reconnecter sa voix à la terre, Philippe Jarouski?
Alors déjà, on la connecte à son corps. Moi, je sais que quand j'ai commencé à chanter, je le faisais de manière très instinctive, hein, parce que j'étais juste tout simplement heureux de chanter. Évidemment, ça suffit pas pour construire une technique de chanteur lyrique. Et je l'ai payé un petit peu dans les premières années de carrière. J'étais fatigué. Et puis, petit à petit, j'ai redécouvert toutes les sensations avec lesquelles on doit chanter quand on est un chanteur d'opéra, parce qu'évidemment on chante sans micro et on doit optimiser le son. Et pour optimiser le son, finalement, il faut que le son résonne dans tout votre corps, au final, comme il le fait dans un violoncelle, dans un piano ou dans un violon. Et c'est vrai que ce qui caractérise, ce qui fait la grande différence peut-être entre la technique d'un chanteur et la technique d'un instrumentiste, c'est effectivement être à l'écoute de ses sensations. Et c'est quelque chose de très difficile, parce que finalement on a toujours tendance à trop s'écouter, écouter les résultats et ne pas être dans l'action de ce qu'on fait. Et c'est toute la difficulté du chant, c'est d'être en perpétuelle avance sur ce qu'on fait et ne pas s'arrêter sur ce qu'on est en train de faire.
C'est toujours étonnant d'ailleurs d'entendre parler un contre-ténor en particulier, parce qu'on entend, oui, vraiment la différence entre la voix parlée et la voix chantée. Je me souviens d'avoir entendu Andreas Scholl parler, bien autre sûr, contre-ténor. Sa voix parlée est plutôt celle d'un baryton.
Oui, bariton basse,
donc
oui.
C'est toujours très très surprenant, et c'est vrai qu'on se demande encore quel terme utiliser pour qualifier la voix chantée par rapport à la voix parlée. On parle souvent de clarté, de chaleur, de couleur. Votre voix a donc changé depuis 20 ans.
Oui, elle a changé, oui.
Ben, je vous propose, sauf si vous avez envie de vous boucher les oreilles, non, j'espère pas, mais je vous propose de vous réentendre en 1999 dans du Scarlatti.
Ah oui, on écoute. C'est mon premier enregistrement.
On va pas s'arrêter sur le texte, Philippe Jarouski, mais là, c'est vrai qu'on entend peut-être cet ancrage, cet enracinement dans la terre, dans le sol dont vous parliez.
Oui, moi, je m'écoute.
Aujourd'hui, je veux dire, par rapport à ce qu'on
entend là. Avec une certaine émotion, parce que je sens cet instinct. J'ai, quelque part, quand j'entends ça, j'avais un an et demi de cours de chant, quand j'ai fait cet enregistrement avec Gérard Laine. Il y avait quand même un instinct du corps. Enfin, j'étais déjà chanteur. Après, effectivement, quand j'entends l'italien, notamment, je pense avoir progressé. Par exemple, le Vittoria, il n'y a pas le double T. Voilà, donc il y avait quelque chose de très spontané dans ce chant. Et qui est important de conserver. C'est ça aussi qui est très difficile quand on fait une technique, qu'on construit sa technique vocale. Il faut aussi partir de ce naturel de la voix et pas lutter contre.
Quels adjectifs utiliseriez-vous aujourd'hui pour qualifier votre voix en termes donc de clarté, de chaleur, de couleur par rapport à ce qu'on entendait là il y a 20 ans, Philippe Jarouski ?
Déjà, j'ai optimisé la projection vocale. J'ai beaucoup travaillé sur faire sonner évidemment la voix à l'intérieur avant de la projeter à l'extérieur. Et du coup, quand on fait ça, elle s'enrichit de beaucoup d'harmoniques, beaucoup de son émotion aussi. Maintenant, ce que je recherche vraiment en permanence quand je chante, c'est une sensation de confort aussi.
Pour vous ?
Exactement. Bien sûr. De solidité et de confort. C'est vrai que quand j'ai commencé à chanter, j'étais dans un instinct et une joie de chanter. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, d'ailleurs peu de temps après l'enregistrement qu'on vient d'écouter, qui a été un peu difficile parce que j'étais trop souvent fatigué. On me proposait notamment, comme on a entendu, des choses très aiguës, peut-être légèrement trop aiguës pour moi. Donc il a fallu que je refasse tout un travail sur comment finalement produire un son avec ses cordes vocales, tout simplement. Presque on pourrait dire, de la phoniatrie.
Vous parliez de l'italien et de la difficulté, à l'époque en tout cas, de prononcer certains mots en italien. Et pourtant, votre voix donc prédispose plutôt au répertoire baroque. Mais vous avez plutôt chanté, même depuis 20 ans, le baroque italien, peut-être beaucoup moins l'anglais. Il ne me semble pas vous avoir entendu chanter Purcell, par exemple. Vous l'avez sans doute chanté, j'ai pas tout regardé. Mais vous avez plutôt une préférence pour le baroque italien.
Alors oui, tout simplement parce que dès que j'ai commencé à chanter, c'était d'ailleurs peu de temps après le film Farinelli, j'ai tout de suite été fasciné par l'histoire des castrats. Ça m'a presque obsédé quand j'avais 19, 20, 21 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de mes premiers disques était dédié au castrat Carestini, qui était encore peu connu par rapport à Farinelli. Et j'étais fasciné par cette histoire, cette tragédie, à la fois cette forme d'abnégation de soi pour la musique. Et du coup, je me suis beaucoup spécialisé dans ce répertoire, évidemment, très italien. Et puis, j'étais terrorisé aussi beaucoup par certaines langues, et probablement peut-être
plus par l'anglais que par l'italien.
Oui, et même plus que l'allemand, parce que l'allemand, je l'ai appris à l'école, c'est une langue peut-être un peu plus logique à prononcer. J'avoue que l'anglais me terrorise encore. Il faut que je me fasse violence pour chanter en anglais. J'espère un jour trouver un vrai plaisir à chanter cette langue.
Quelle est la spécificité du baroque italien, musicalement parlant, par rapport à d'autres, au français, à l'anglais,
du baroque italien? Pour moi, c'est déjà du bel canto dans le baroque. C'est déjà qu'il y a un hédonisme sonore, une volonté d'aller au-delà de ce que peut l'être humain normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quelque part créé les castrats, puisqu'on sait qu'ils avaient des cages thoraciques plus grandes
que la moyenne. Avec un ambitus extrêmement large.
Un souffle extrêmement aussi. Oui. Voilà. Donc, voilà, la musique baroque, c'est ça, c'est aller au bout de ces ressources aussi techniques. Et c'est pour ça aussi peut-être que ça attire aussi de plus en plus de grands chanteurs, pas forcément baroques à la base. Évidemment, je pense à Cecilia Bartoli, Josie Donato. Beaucoup de chanteuses maintenant font des récitals baroques parce que c'est un moyen aussi de montrer toute l'étendue de ses possibilités vocales.
Crudel, provo la mano.
Philippe Jarouski, on vient d'entendre un extrait de l'acte 2 d'Erismen, opéra de Cavalli. Avec Cavalli, on est à Venise, au XVIIe siècle. Et cette époque, c'est à ce moment-là et à cet endroit-là que naît l'opéra comme genre et comme économie telle qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, exactement. Voilà, Venise a créé le premier théâtre public et Cavalli y a participé. Et ce qui est étonnant de savoir, c'est qu'effectivement, on a déjà presque tout de l'opéra, la notion de troupe, de chanteurs. Venise a même créé directement les impresarios. C'est vrai qu'il y a une grande modernité et cette modernité, on la retrouve aussi dans la musique. Il y a une grande liberté de ton. Là, évidemment, on a écouté un lamento, donc c'est une pièce où, évidemment, le héros se lamente, en général, parce qu'il...
J'aime beaucoup les lamentos, hein, donc c'est pour ça que je les lamenti, d'ailleurs.
Mais ce qui fait la particularité des opéras de Cavalli et de tous, cet opéra vénitien, c'est qu'il y a des choses très comiques aussi. Il y a des choses presque même érotiques aussi, évidemment.
On va peut-être en écouter du coup. Alors, on a choisi Callisto.
Avec ma grande amie.
Ninfa Bella, avec votre grande amie, Marie-Nicole Lemieux, qui, elle, est contralto.
Ninfa Bella, Ninfa Bella, che mormono, che mormono, che marito il cucellino, sin mio, sin piante, aggradati in grembo, in braccio, piglia vita, tutto, tutto mi t'offrirò. Sin mio, sin piante, aggradati in grembo, in braccio, piglia vita, tutto, tutto mi t'offrirò. Si ruvido consorte, campessi netto mai, torna la sorte. Molli, molli, come la ruggine, in un pungenti sito ne son questi peli tene, che non membri mi spuntano, mi puran come ad ombra.
Voilà ce Ninfa Bella avec Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jarouski, qui vous fait donc beaucoup sourire, voire rire.
Oui, c'est magnifique avec Marie-Nicole, c'est qu'on la voit quand elle chante. Hein, on la voit à côté de soi, rire, pleurer. Et voilà, je suis très heureux qu'elle ait accepté de venir enregistrer cet air qu'on a chanté beaucoup en concert il y a déjà quelques années et qui faisait beaucoup rire aussi les spectateurs.
Alors vous disiez que l'opéra est né d'une certaine façon à Venise au XVIIe siècle. Et le problème, c'est qu'au XVIIe siècle, la musique est aussi riche finalement que ce qui nous reste est pauvre, puisqu'on a perdu les partitions, elles n'ont parfois pas survécu autant. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre Francesco Cavalli, qui reste méconnu aujourd'hui, alors que c'était l'élève de Monteverdi, qu'après Monteverdi, Lully et Purcell, c'est le quatrième grand nom de l'opéra du XVIIe siècle. On dit même qu'il est la grande figure de l'opéra vénitien.
Mais on le redécouvre. Alors, c'est vrai que on a beaucoup de chance avec Cavalli quand même par rapport à Monteverdi, qui est peut-être la plus grande tragédie de l'histoire de la musique, c'est qu'on a conservé que 3 opéras de Monteverdi sur toute sa production, alors que pour Cavalli, on en a 37. Donc, ça permet de faire un bon choix.
Et pourtant, Monteverdi est bien plus connu aujourd'hui du grand public
que
Cavalli.
Oui, parce qu'on peut dire que Monteverdi est quand même un génie absolu de la musique. Qu'on pourrait mettre sur le même plan, j'ose le faire, que Mozart ou d'autres compositeurs. Cavalli, il y a une dimension aussi qui est très importante. On le redécouvre notamment beaucoup, notamment ses opéras en intégrale, à l'opéra, en mise en scène. Et on a eu le cas justement l'année dernière à l'Opéra de Paris avec Elio Gabalo, Aix-en-Provence aussi, il y a eu 2 opéras. Et on redécouvre aussi toute la modernité du livret. Et ce sont des livrets très shakespeariens, très contrastés, et ça plaît beaucoup aux metteurs en scène contemporains.
Mais d'où ma question du choix des œuvres, Philippe Jarouski, pour ce disque. Il n'y a pas Egisto, par exemple.
Oh, je dis
Egisto parce
que
justement, il a été monté récemment, et puis qu'on a pu dire que Egisto à Venise, c'est un peu au XVIIe siècle, ce qu'une comédie musicale aujourd'hui est à Broadway, fut au XXe, quoi. Donc,
c'est vrai. Grâce à Internet, maintenant, on peut récupérer beaucoup de ces manuscrits, et même des autographes par Internet. J'ai parcouru la plupart de ces opéras, j'ai fait un choix, on va dire, entre... J'adore composer des disques parce que c'est comme un cocktail. Il faut mettre la bonne dose d'alcool, le fruit, la dose d'amertume, de sucré. Donc là, on a... Voilà, j'ai voulu vraiment contraster le disque et donner un panorama de ce que c'est faire Cavalli dans la plupart de ses opéras.
Et puis en plus, il faut les chanter hors contexte, puisqu'il s'agit d'airs d'opéra.
Oui.
Donc peut-être entre certains de ces airs d'opéra, vous avez glissé des symphonies instrumentales.
Exactement. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien dans le 10, parce que c'est vrai que souvent, quand on fait un récital, on passe du coq à l'âne, on va dire. Et des fois, on est triste, on est joyeux, même en récital. Et de temps en temps, avoir cette petite ponctuation avec une symphonia, ça permet justement de ponctuer un disque. Et je pense qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait dans un disque. Je suis assez content du programme.
Oh bah oui, vous avez tort. En tous les cas, vous auriez tort parce que ce disque-là est vraiment magnifique. On va d'ailleurs se quitter avec une petite sinfonia à notre tour avant les titres de l'actualité. On vous retrouve dans 2 minutes, Philippe Jaroussky.
Très bien, à tout de suite.
Et on retrouve notre invité, le contre-ténor Philippe Jaroussky. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Philippe Jaroussky, on ne vous savait pas directeur d'académie. Il se trouve que vous avez lancé votre académie de musique en résidence à la scène musicale à Boulogne, tout à côté de Paris. C'est la deuxième saison de cette académie?
Exactement, oui. C'est la deuxième promotion, parce qu'en fait, on donne un nom à chaque promotion. Un peu comme à l'ENA. Donc la première promotion était la promotion Mozart, parce que ça nous paraissait évident. Et cette année, c'est la promotion Vivaldi.
Cela dit, c'est moins endogame et moins homogène comme recrutement dans votre académie qu'à l'ENA, puisque je crois qu'au contraire, l'idée, c'est d'ouvrir à des
Évidemment.
Jeunes publics qui n'ont pas accès à la musique classique
voilà,
facilement.
On a deux projets. L'idée vient de mon parcours personnel. Moi, je venais pas d'une famille de musiciens. J'ai découvert la musique grâce à un professeur au collège. Et j'ai vite constaté que voilà, l'étude de la musique classique, ça coûte aussi de l'argent quand il faut changer d'instrument à certains niveaux, les partitions, les cours. Voilà, donc on a un projet qui s'appelle les jeunes apprentis, où on a des enfants de 6 à 12 ans. Alors on dit plus issus de milieux défavorisés, mais éloignés de la pratique culturelle.
Ah, d'accord, ça vient même.
Donc c'est un enseignement gratuit, c'est donc des cours soutenus. Pour l'instant, on a violon, violoncelle et piano. On espère ouvrir plus d'instruments dans le futur. Et c'est un rythme assez soutenu puisqu'ils ont 2 cours dans la semaine d'une heure pour permettre finalement aux enfants de progresser vite. Et puis on a une.
Ils se produisent sur scène, c'est.
Oui,
c'est ce
bah ils se sont encore.
Trois
d'entre eux se sont récemment produits dans le fameux trio de Schubert aux Victoires de la musique classique. Ça a été un gros challenge pour nous parce qu'ils avaient 1 an et demi d'instruments. Donc pour jouer Schubert, ça a été vraiment un très très gros challenge aussi pour les professeurs qui leur ont enseigné le morceau. Le pari a été tenu, ça a été un moment, je crois, très émouvant de transmission. Et puis on a évidemment quelque chose qui. Plus d'une fondation plus classique, c'est-à-dire voilà le soutien à des jeunes professionnels qui veulent se destiner à la carrière de musicien.
Donc une dimension sociale
et voilà,
avec les,
une dimension
les
d'insertion professionnelle.
Et d'insertion professionnelle voilà. Avec les jeunes adultes. 24 musiciens de la promotion 2018-2019, c'est
oui,
cela.
Exactement.
Alors qui sont-ils, ceux qui viennent à l'académie? Comment les recrutez-vous?
Bah pour les enfants, donc c'est avec les familles, on reçoit les familles, on essaye de...
Il faut déjà les mettre au courant que cette académie maintenant existe.
Voilà, l'idée aussi c'est vraiment d'être à l'écoute de la parole d'un enfant. Moi je trouve qu'on n'écoute pas assez les enfants et ça peut paraître curieux, mais je crois qu'il y a des enfants qui à 5, 6, 7 ans savent déjà ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors des fois on pense que c'est une lubie passagère, mais en fait des fois c'est une vraie passion qui naît chez un enfant. Donc on écoute tout ça et puis bah pour les grands on a des auditions.
Pour les grands, c'est plus classique.
Voilà, c'est sur dossier. D'ailleurs, les dossiers pour les deux projets sont ouverts jusqu'au 1er avril. Donc, j'invite tout le monde qui se reconnaît dans ce projet à candidater pour la troisième promotion qui s'appellera la promotion Ravel.
D'accord. Philippe Jarouski, pour quelles raisons avez-vous choisi d'ouvrir cette académie maintenant ?
Alors, pour plusieurs raisons.
Vous disiez que vous aviez vous-même profité de ces rencontres avec des professionnels, surtout grâce à un professeur
exactement.
Au collège.
Donc il y a eu mon histoire personnelle.
Mais c'est là aujourd'hui, après 20 ans de
oui,
carrière.
Il y a une histoire personnelle d'abord, évidemment, parce que je viens de cette histoire-là, je viens de la banlieue parisienne, et je n'avais pas eu un conservatoire municipal à côté de chez moi à Sartrouville, je ne serais pas là pour vous parler. Après, je me suis rendu compte que, notamment en interview, comme aujourd'hui, on m'a souvent posé la question ces 15 dernières années, comment faire pour démocratiser la musique classique ? Et je suis convaincu que finalement, c'est un peu comme au football, il faut que les gens puissent s'identifier aux personnes qui sont sur scène. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une mixité sociale sur la scène, dans un orchestre, il y aura peut-être moins de mixité sociale dans le public. Et aussi, à force de répondre à ces interviews et de dire « oui, il faut faire quelque chose », je me suis dit arrêtons de le dire et faisons-le, tout simplement, voilà.
Partager la passion et lancer de nouveaux talents. Cela dit, vous nous faites une merveilleuse transition vers notre fabrique médiatique qui aura lieu dans quelques minutes sur la diversité, mais pas seulement là dans la musique classique, aussi dans les médias, représentation de la diversité de la population française. Mais il se trouve que vous aussi faites preuve d'ouverture d'esprit, puisque vous n'aimez pas que les musiques classiques, vous n'aimez pas que le baroque italien, Philippe Jarouski. Il vous arrive d'écouter des musiques d'aujourd'hui, les musiques contemporaines.
Bien sûr.
C'est votre choix musical.
C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais plus intégriste, on va dire. Quand je me suis lancé dans la musique classique, j'écoutais la musique classique. Bon, déjà, il y a 400 ans de musique à écouter, donc ça vous occupe pas mal. Après, je me suis mis pas mal, évidemment, aux grands chanteurs français, de chansons françaises, et puis après au jazz, beaucoup.
Mais pour pratiquer, parce que ça vous aidait à chanter de façon différente, ou juste par plaisir ?
Ça m'a aidé à chanter en français. Effectivement, parce que des fois j'ai l'impression qu'à l'opéra, quand on chante, on est tellement obsédé par la projection vocale qu'on oublie la simplicité qu'il faut avoir et la subtilité qu'il faut avoir dans la prononciation de la langue française.
Et l'interprétation.
Exactement. Et c'est vrai que, voilà, donc j'écoute un peu tout, je suis assez curieux. Et c'est vrai que peu de temps avant les victoires, je dois dire quelques semaines avant, un ami m'a fait découvrir Jeanne Haddad. Et j'ai écouté, et ce qui m'a plu, c'est que j'aime beaucoup ce mélange de styles, évidemment. Il y a cette touche techno, cette approche presque jazz aussi dans la voix. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, voilà, moi j'aime les artistes qui me font du bien quand je les écoute. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant dans la voix de Jeanne Haddad.
Merci beaucoup Philippe Jarouski d'être venu ce matin. Mutate, vous avez choisi. Meilleur album rock pour Radiat, son dernier album. Meilleure artiste féminine aux dernières victoires de la musique. Eh bien, on écoute alors Jeanne Haddad pour terminer avec vous, Philippe Jarouski.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration?
Et votre disque, Philippe Jarouski, c'est Ombra Maifu avec votre ensemble, bien sûr, Arta Cercé. Un disque paru sur le label Erato. Sachez qu'une journée spéciale est prévue sur France Musique, mercredi prochain, avec en point d'orgue, à 20h, la diffusion d'une soirée de concert avec vous et plein d'amis musiciens. Et puis, vous serez en concert le 26 mars à Montpellier, le 28 à Avignon et le 5 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.